L'atelier du pouvoir. Vincent Martini, Ariane Chemin.
Il est très important que l'exercice du pouvoir politique se voit interrogé par des gens qui posent la question, mais qu'est-ce qui vous légitime ?
Le pouvoir possède la radio et la télévision et un parlement à sa main. Nous allons nous expliquer directement dans la rue.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes.
Ce soir, nous célébrons la République.
Yes, we can heal this nation. Yes, we can repair this world. Yes, we can.
L'atelier du pouvoir.
Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Vincent Martini.
Bonjour Ariane Chemin.
Très heureux de vous retrouver dans ce nouvel atelier du pouvoir, l'émission qui chaque samedi décortique la politique, vous promène au cœur des institutions et se propose de déchiffrer modes et codes des sociétés démocratiques. Dans deux jours, lundi 19 novembre, c'est l'anniversaire de l'attentat contre le DC-10 d'UTA, le président de la République rendra hommage dans les jardins des Invalides à toutes les victimes du terrorisme. C'est une première. Au creux de l'été, un autre événement est passé inaperçu. Un décret a officialisé une médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme, récompense qui fait déjà polémique alors que cette fleur à 5 pétales, accrochée à un ruban blanc, n'a jamais encore été décernée. La victime est-elle devenue le héros des temps modernes ? C'est la question que nous posons aujourd'hui, cher Vincent.
Nous sommes entrés dans le temps des victimes. Dans des sociétés démocratiques de plus en plus complexes, encore souvent violentes, la figure de la victime a émergé depuis une vingtaine d'années comme un acteur central de notre vie politique. Ce tournant requalifie comme victime une grande partie de nos concitoyens. Chômeurs, handicapés, accidentés, pauvres, malades, personnes âgées, minorités. Nous sommes tous des victimes potentielles de la société, de la vie, des brusques effractions de la violence ou de la maladie qui surviennent dans le courant de nos existences. Ce bouleversement a des conséquences politiques essentielles. En France comme ailleurs, les politiques sont sommés de se porter au chevet des victimes. Ils doivent comprendre la douleur, annoncer des mesures qui traduisent la prise en compte des risques et proposer une indemnisation des pertes. Ils deviennent des instruments de consolation, comme le rappelle justement le philosophe Michael Fussell, que nous avions reçu dans une précédente émission sur le deuil. Le temps des victimes transforme également profondément le métier politique. Alors qu'il était pensé comme un intermédiaire des rapports de force et le moteur de l'intérêt général, le personnel politique devient de plus en plus exclusivement le médiateur de l'émotion collective. Alors, comment les victimes ont-elles changé la profession politique ? L'ère de la compassion est-elle incompatible avec une vision à long terme des enjeux politiques d'une société ? Cette situation est-elle inéluctable ? Ce sont les enjeux que nous évoquons aujourd'hui avec nos invités pour ce nouvel atelier du pouvoir consacré à la question des victimes en politique.
Avec nous aujourd'hui dans le studio, Martin Hirsch, vous êtes directeur général de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, après avoir présidé l'agence du service civique et aussi Emmaüs France. Mais vous avez aussi été, entre 2007 et 2010, haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, un poste créé spécialement pour vous. À vos côtés, Caroline Eliachev, docteur en médecine, psychanalyste et pédopsychiatre. Vous avez écrit avec maître Daniel Soulez-Larivière, chez Albin Michel, un livre intitulé « Le temps des victimes ». Et puis pour notre séquence internationale, nous nous rendrons aujourd'hui à Tokyo avec Marie Augendre, maîtresse de conférence en géographie à l'Université de Lyon 2, spécialiste du Japon, qui un peu après 13h10 nous parlera de la prise en charge des victimes de la catastrophe nucléaire de Fukushima il y a 5 ans.
Vendredi 13 novembre, la France a été frappée lâchement. Dans un acte de guerre organisé de loin et froidement exécuté, une horde d'assassins a tué 130 des nôtres au nom d'une cause folle et d'un Dieu trahi. Aujourd'hui, la nation tout entière pleure les victimes. En cet instant si grave et si douloureux, où la nation fait corps avec elle-même, j'adresse en son nom notre compassion, notre affection, notre sollicitude aux familles et aux proches réunis ici, dans ce même malheur. La France sera à vos côtés pour apaiser les douleurs, et après avoir enterré les morts, il nous reviendra de réparer les vivants.
On vient d'entendre François Hollande, c'était le 27 novembre dernier dans la cour des Invalides. son hommage aux victimes du 13 novembre. Martin Hirsch, bonjour. On a entendu les mots compassion, sollicitude, affection et même l'expression réparer les vivants, titre du livre de Maïlys de Carangal. Est-ce que c'est difficile de parler aux victimes?
Ben moi, je vais vous reparler du 13 novembre. J'étais à l'hommage aux Invalides. Mais le 14 novembre, j'étais dans les hôpitaux, dont un des hôpitaux où je suis allé avec le président de la République. Ce qui m'a frappé et stupéfait, c'est des blessés ou des familles de blessés ou de décédés dont le premier réflexe était la sollicitude vis-à-vis des soignants. J'avais jamais vu ça. C'est-à-dire, on essayait de trouver maladroitement les mots, est-ce que ça va, est-ce que vous êtes bien accompagné, etc. Et eux disaient, mais ne vous occupez pas de nous, il y en a, occupez-vous d'autres, est-ce que ce n'est pas trop dur pour vous, etc. Et ça, je pense que ça m'a frappé parce que je l'ai vu à chaque reprise lors de ce drame. Et je pense que ça signifie quelque chose. C'est-à-dire que, il me semble que ça signifie que les victimes ne sont pas que l'objet de la sollicitude de ceci et cela. Et qu'elles, je pense, revendiquent elles-mêmes d'être acteurs. Parce que les victimes des accidents ou des attentats dont on parle sont des victimes qui, par définition, ont subi, elles n'y étaient pas choisies, ça ne répond pas à un acte de leur part. Et donc, les traiter que comme des éléments passifs, je ne pense, ne correspond pas complètement à leurs attentes, à leurs besoins et à leurs besoins de réparation.
Caroline Elchev, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Quand vous entendez François Hollande avoir ses discours de compassion, est-ce que vous vous dites finalement, nous sommes entrés dans un temps des victimes dans lequel le président de la République doit avant toute chose, face à ce drame qu'ont été les attentats, rendre hommage aux victimes. Est-ce que c'est ça le rôle principal de l'acteur politique?
C'est un des rôles. C'est pas le seul rôle du président de la République, mais s'il ne l'avait pas fait, je pense que ça aurait été pour le coup une faute politique. Ce que dit Martin Hirsch est très intéressant parce que cette compassion, on voit que lorsqu'arrive un événement qui suscite la compassion. Eh bien, cet événement, dans une société démocratique, et jusqu'à preuve du contraire chez nous, elle est aussi porteuse de cohésion et de solidarité. Et donc, voilà, dans une démocratie, un événement grave qui suscite la compassion est aussi porteur de cohésion sociale. On l'a vu avec les manifestations, etc.
Mais ce que semble dire Martin Hirsch, c'est que quand même, ces attentats ont marqué un tournant, effectivement. C'est quelque chose que vous n'aviez pas vu avant. C'est-à-dire que quand on se reproche quelque chose, quand on dit au médecin, est-ce que c'est pas trop dur, ça veut dire qu'on comprend aussi ce qu'il y a de politique et de différent.
Oui, moi j'ai eu le sentiment que c'était l'ampleur qui expliquait cela, qui me semblait plus marqué que dans des accidents plus ponctuels. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui se joue dans ces hommages, c'est que finalement, ceux qui avaient été directement touchés se sentaient représentatifs de l'ensemble de la population. Donc il n'y avait pas quelques victimes face au reste de la population, il y avait un pays entier frappé, et donc tous les autres, même pas frappés directement, étaient aussi dans le même camp, si je puis dire.
Mais Martin Hirsch, vous avez le sentiment que ces victimes du terrorisme sont des victimes d'un genre nouveau, vous diriez cela?
C'est pas dire cela, je pense qu'elles ont des caractéristiques particulières, ce qui frappe, c'est que ce sont, je dirais, par excellence, les victimes à leur insu. Moi, j'ai vu des situations dramatiques dans du logement insalubre, etc., sur lesquelles il y a toujours une question de, finalement, et si on avait
fait
quelque chose avant, et peut-être que si elle s'était logée différemment, etc., etc. Tandis que là, on a vraiment les victimes en leur insu, et les victimes, j'allais dire, presque aléatoirement déterminées.
Les victimes innocentes.
Effectivement, on y reviendra, chef, sur ce commentaire.
Non, mais je ne pense pas, effectivement, que ça soit... Enfin, je veux dire, on ne va pas faire une hiérarchie des victimes. Voilà. Il y a des victimes, et puis... Enfin, moi, ce que je n'aime pas, par exemple, c'est qu'on désigne sous le nom de victimes les familles des victimes. Ce sont les familles, mais les victimes, en particulier des actes terroristes, ce sont les blessés et les morts.
Mais sur l'effet de masse dont parlait effectivement Martin Hirsch, il y a quelque chose qui est apparu, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, ce sont les mémoriaux dans les journaux.
Tout à fait,
que tout d'un coup,
vous en parler.
Tout d'un coup, on fait ça, ça a été fait aux États-Unis évidemment, après le 11 septembre, mais ça c'est nouveau en France.
Oui, effectivement, c'est Le Monde qui a fait ça, hein, qui a fait des petites biographies. Moi, j'étais très perplexe en lisant ça et comme on pouvait pressentir que d'autres attentats allaient survenir, je me suis demandé ce qui allait se passer. Et en particulier, après l'attentat de Nice, plus personne n'a repris ce genre de choses. Alors, c'est intéressant parce que ceux qui sont, on dit, les victimes sont les héros modernes, hein, quand il y en a beaucoup. C'était une manière d'en faire des héros modernes, mais je pense que, en même temps, ils sont restés très anonymes. On ne se souvient plus de leur nom. En revanche, les terroristes, eux, sont nommés, leur vie racontée, etc., etc. Et là aussi, on peut s'interroger sur, on s'interroge d'ailleurs énormément sur la nécessité d'en faire, entre guillemets, des héros, pas pour nous tous, mais pour eux et pour ceux qui les défendent.
Alors Caroline Eliachef, vous avez écrit ce livre avec Daniel Soulez-Larivière, Le Temps des Victimes. Et dans Ce Temps des Victimes, vous dites que c'est finalement une manifestation contemporaine, l'espèce d'émergence de la victime dans la vie politique. Vous la datez à quand? Vous la faites remonter à quand, ce moment où tout d'un coup, les victimes ont fait une intrusion très forte dans la vie politique? Et d'une certaine manière, corollaire à cette question, pourquoi est-ce qu'on a pu assister à ce phénomène?
Alors, pour situer un petit peu, le premier bureau des victimes au ministère de la Justice a été instauré par Robert Badinter en 1982 et avec une forte incitation à créer des associations de victimes. Donc 82-83. Alors évidemment, ça, d'abord nous étions quand même assez en retard et effectivement il fallait s'occuper des victimes et les associations se sont créées. Alors ça va aussi dans un mouvement plus général. Hein. Nous sommes dans une démocratie, nous avons un idéal d'égalité. Et donc, nous devons nous occuper des personnes qui sont défavorisées, qui sont victimes d'eux, etc., etc. Donc, c'est pas tout d'un coup les politiques qui ont décidé de s'en occuper.
C'est une demande sociale aussi, vous dites.
C'est bien entendu une demande sociale, et donc ça va de pair avec toutes sortes de choses qui sont arrivées aussi à ces moments-là.
Martin Hirsch, vous qui évoluez un peu dans le monde associatif et politique depuis maintenant une vingtaine d'années, 20-30 ans, vous avez vu à un moment donné un tournant, une accélération de cette demande sociale de prise en compte des victimes?
Oui, moi je vais vous dire comment je l'ai vu et je vais prendre l'exemple médical. Moi ce qui me semble c'est que on est passé d'une notion victime réservée à celles et ceux pour lesquels on pouvait identifier le persécuteur ou le bourreau à la notion de victime du pas de chance ou de la société. Et dans le domaine médical, c'est les années 90 qui marquent le tournant. C'est très clair, puisque auparavant, pour se faire reconnaître victime d'un accident médical, indemnisé, il fallait qu'une faute soit reconnue. Ce qui posait des tas de problèmes qu'on a vus à l'occasion des drames sanitaires, hein, qui sont, la première... pardon si les termes ne sont pas bons, mais la première arrivée de victimes massives où la jurisprudence a évolué avec la notion d'aléa thérapeutique pour reconnaître, à tous les sens du terme, qu'on peut être victime même s'il n'y a pas de faute, et donc même s'il n'y a pas de bourreau. Donc je pense que c'est à ce moment-là qu'on a franchi une deuxième étape, donc dans le domaine médical, mais dans d'autres domaines également.
Alors dans le domaine politique, on va écouter un président de la République qui a été un des présidents qui a accompagné ce tournant vers l'accompagnement des victimes, c'était Jacques Chirac, le 14 juillet 2002 à l'Élysée, et il parlait des grands chantiers du quinquennat à venir, on l'écoute.
C'est d'abord la lutte contre l'insécurité routière, je suis absolument horrifié par le fait que les routes françaises sont les plus dangereuses d'Europe. C'est ensuite le cancer qui, au-delà naturellement de l'attention qu'on va avoir pour toutes les maladies, mais le cancer c'est un véritable drame national qui exige un effort considérable, un effort de recherche, un effort de prévention et de dépistage, un effort de traitement, y compris de traitement psychologique des malades. Et ça, c'est aussi une grande ambition que nous devons avoir. Et le troisième chantier, ce sont les handicapés qui, en France, n'ont pas encore trouvé leur place de façon digne. Et beaucoup de progrès reste à faire. Voilà les trois grands chantiers. Vous voyez, ils ne seront pas aux mains des architectes, mais je l'espère aux mains entre les mains des hommes et des femmes de cœur.
Alors là, nous sommes obligés de nous replonger dans le contexte. Nous sommes le 14 juillet 2002. Jacques Chirac vient d'être élu avec des voix qui dépassent largement les frontières de son électorat traditionnel. Il doit être consensuel. Et on a l'impression que ce discours est adapté un petit peu à la situation politique. Qu'est-ce que ça vous inspire, Caroline Liachef ou Martin Hirsch?
Bon, moi, je vais dire que quand les hommes politiques s'intéresse aux victimes, ça a un énorme avantage, c'est qu'ils sont sûrs d'être sur une bonne cause. Aujourd'hui, c'est assez difficile de choisir les causes, etc. Là, ils sont absolument assurés d'être sur une bonne cause. Alors, je précise aussi concernant Jacques Chirac que après l'attentat du métro Saint-Michel, il me semble que c'était en 1995.
Absolument.
C'est la première fois que on a instauré les cellules d'urgence médico-psychologiques. Donc voilà, Jacques Chirac, il était vraiment sur ces affaires-là, mais là on voit bien, c'est absolument consensuel. Qui pourrait être contre le fait de s'occuper des handicapés?
Alors moi, ce que je trouve très intéressant, parce que j'ai vu, on n'est pas filmé, mais je dois dire que Caroline Liachef a légèrement souri quand on entendait Jacques Chirac. Ce que je comprends, parce que on ne sait pas si c'est lui ou sa caricature, hein, c'est son ton caractéristique, son empathie caractéristique, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, avec cette déclaration et avec les actes qui ont suivi, il s'est passé quelque chose.
C'est-à-dire ?
Mais c'est-à-dire que c'est le lancement du premier plan digne de son nom, d'abord sur la sécurité routière, après une campagne électorale absolument extraordinaire, où cinq médecins avec Claude Gault en tête tapent sur l'amnistie en disant c'est la voie d'entrée. Donc c'est intéressant, hein, pour une fois, quand on amnistie plus les bourreaux, quoi. Il y a un truc qui se passe.
Les chauffards, vous voulez dire. Voilà. Les gens qui sont.
Mais du coup, voilà, on se remet du côté des victimes sur les accidents de la route, et c'est le moment où on passe de 12 000 accidents de la route à 4 ou 5 000 par an. Donc moi, je dis souvent que Jacques Chirac est en réalité probablement le président de la République qui a sauvé le plus de vies humaines de la Ve République. Et sur le cancer aussi, c'est la création de l'Institut du cancer, etc. Toute une série de choses, etc. Sur le handicap, je ne crois pas qu'il se soit passé grand-chose de réel. Mais 2 sur 3, à partir d'un discours dont je ne sais pas s'il a été pensé en disant les actes vont suivre, mais il se trouve qu'il s'est passé quelque chose.
Oui, mais concrètement,
ce qui contraste avec d'autres.
Concrètement, c'est même s'il y a des choses qui ont été mises en œuvre, est-ce que ça ne dit pas quelque chose sur la transformation du métier de politique qui finalement s'intéresse à des enjeux qui sont des enjeux autour des victimes, autour de l'émotion sociale et qui récupère, qui capte cette émotion et qui lance finalement comme programme d'un quinquennat, 5 ans, 3 plans qui sont des plans très importants, bien entendu, pour les gens qui sont victimes de la route ou victimes du cancer, mais qui ne sont pas toujours considérés par d'autres comme à la hauteur de ce que pourrait être
Exactement.
Une vision politique.
Je pourrais abonder dans votre sens, du genre de quoi il se mêle, et j'irais dans le sens inverse. Parce que, à la limite, quand on discute avec un président de la République, hein, et quand on voit de quoi il parle, en fait, il parle de tout sauf de vous. Le cours de l'euro, le montant des investissements, mais même la manière dont ils appréhendent la France, c'est à travers des choses qui sont extrêmement abstraites, qui sont à 3 niveaux de distance par rapport à notre vie quotidienne. Et dans les reproches qu'on fait aux politiques, c'est de dire, mais moi, mon sujet, c'est comment je vais au boulot, comment je me loge, est-ce que je vais être malade, etc., etc. Donc, les politiques ont en général beaucoup de mal à venir rentrer dans nos préoccupations de la vie quotidienne. Enfin, parce qu'ils doivent être au-dessus, parce que c'est les sujets les plus durs à traiter. Et le biais, j'allais dire, de la victime et de la maladie est une manière d'aller directement à ça. Alors ensuite, c'est pour ça que j'insistais un moment sur cette exception, presque, de Jacques Chirac pour laquelle ça a été suivi d'actes. Alors ensuite, souvent, la compassion fait office de politique, pardon, si je puis. Et là, ça ne sert strictement à rien.
Caroline Liachef, quand on entend Martin Hirsch nous parler du fait que, évidemment, il y a une langue qui parle des gens, est-ce que vous pourriez dire que, par les victimes, la politique est devenue une force de compensation psychanalytique, vous qui êtes psychanalyste?
Non, pas de compensation psychanalytique. J'irai pas aussi loin que vous dans le sens de ça a transformé. Je crois qu'effectivement, les hommes politiques aujourd'hui ont besoin de se montrer, entre guillemets, humains. C'est-à-dire, il partage les mêmes problèmes que vous. Et alors, ça va même plus loin. C'est-à-dire que l'homme politique aujourd'hui n'hésite pas à se victimiser lui-même. Ça, c'est assez nouveau, par contre. Hein, c'est-à-dire, il est tellement comme vous, victime, que lui-même est victime. On l'entend quand même assez souvent. Ça, c'est franchement nouveau. On n'avait pas vu ça. Voilà, ce n'est plus un héros, etc., etc. Lui-même est victime de tas de choses.
Mais c'est une transformation complète quand même dans l'histoire de cette victimisation. Alors on voit que ça, les étapes, elles sont soit politiques, on l'a vu ici, mais elles peuvent être aussi dans les mots qu'on utilise, etc. Et puis dans la façon qu'on a de parler aux victimes, c'est-à-dire qu'on peut aller sur le terrain, ou peut parler comme François Hollande dans la cour des Invalides, ou lors d'un 14 juillet, ce qu'a fait Jacques Chirac, et ça n'est pas du tout pareil.
Oui, alors reprenons les mots. Moi, il y a une chose qui m'a fasciné ces dernières années. Donc du côté des politiques, on va parler de victimes, et du côté des médias, on va parler de sinistrés. Quoi, pour d'autres catastrophes. Mais on a vu arriver ce substantif totalement absurde, où sont bantitrés aux 20h, un monsieur très sympathique, mais dont la maison a été inondée, et dont la principale qualité a été d'être sinistré. Donc derrière, je pense qu'il ne faut pas... En plus, il y a un miroir forcément entre les médias et la politique. Hein. Tout à l'heure, Caroline Léachef disait à juste titre qu'il aurait fait une faute politique s'il n'avait pas fait cet hommage, quand tout le monde lui serait tombé dessus. Donc il y a aussi le souci de ne pas se faire reprocher ses carences dans ces cas-là. Mais du coup... Moi, la question qui me paraît dangereuse, c'est si on enferme dans des catégories les victimes, si on ne se définit plus. Et je ne pense pas que ce soit un service à rendre à ceux qui ont subi un attentat, un accident, etc., de les catégoriser et de les enfermer dans le statut de victime ou de sinistré.
Alors, pardon, oui, c'est pas la même chose d'être victime de quelque chose et d'être victime.
Alors, on va voir que certains hommes politiques font le déplacement, hein, ils vont sur le terrain, mais ils sont pas toujours très bien reçus. Il y en avait un qui s'en rappelle et qui s'en rappelle de manière assez cruelle. C'est Lionel Jospin en avril 2001, au moment des inondations dans la Somme à Abbeville, et il faisait face à des citoyens en colère.
Qu'est-ce que vous pouvez me donner à moi comme explication à cette situation?
Une pluie qui est tombée, qui est trois fois plus que la moyenne habituelle.
Non, on a toujours des pluies torrentielles, on en a toujours.
Pas sur la même durée.
Après, deuxième, vous me dites quoi?
Hein?
Vous me dites quoi?
Ben, les nappes phréatiques ont été saturées, les marais également. Mmh. Bon, les grandes marées qui obligeaient à empêcher le reflux de la mer.
Tous les ans, nous avons des grandes marées.
Non, pas avec la même pluviométrie.
Écoutez, j'habite ici. Mmh. Depuis ma naissance, je sais les conditions atmosphériques. Je n'ai jamais vu ça de ma vie.
Madame, quand on a eu...
Il y a des gens qui ont 80 ans, ils n'ont jamais vu ça.
Mais oui, qui voulez-vous qui ait la possibilité, de, à Paris, de décider de déverser
de l'eau? Monsieur Jospin, vous nous prenez vraiment pour des imbéciles.
Non, certainement pas, mais je vous
enfin, des imbéciles inondés. Mais en tout cas, si vous voulez un bassin olympique pour les épreuves de natation, on a ce qu'il faut à votre disposition.
Ne croyez pas
ça. Merci de votre visite de courtoisie.
Visite de courtoisie, en tout cas, Lionel Jospin n'est pas accueilli très courtoisement. Le Premier ministre est pris à partie. Est-ce que, au fond, il a été imprudent, trop courageux, trop honnête? Qu'est-ce que vous en pensez, Martin Hirsch?
Je pense surtout qu'il a été récidiviste. Parce que moi, je me souvenais plus de cet épisode, mais je me souviens avoir entendu sur France Info, et compris ce jour-là que Lionel Jospin ne serait pas élu, Lionel Jospin dans une usine, apostrophé par quelqu'un qui perdait son travail, et lui donnant la même leçon, non pas sur la pluviométrie, mais sur les courbes de l'emploi, de l'économie et le cours d'échange. Et avec une réponse tout à fait rationnelle et tout à fait juste sur quels sont les phénomènes statistiques. Et donc, voilà. Donc effectivement, Lionel Jospin a eu l'éthique de l'anti-victime, finalement. Voilà, qui est une autre éthique, mais pas complètement efficace, l'histoire l'a dit.
Mais dans le même temps, ça pose la question, Martin Hirsch, vous qui avez été dans une situation de responsabilité politique, de savoir comment on réagit en tant qu'acteur politique quand on va sur le terrain. Comment est-ce qu'on fait face, des fois, à la colère? Parce que les habitants, là, ici, sont en colère.
Oui, mais je dirais, la première chose, c'est que... le responsable politique est quelqu'un qui doit faire des politiques. Et donc, ce qui est commun, et ce qu'on voyait apparaître à travers ce petit extrait sur les inondations, dans beaucoup de ces catastrophes ou de ces drames, il y a effectivement les responsables directs, le terroriste, le fleuve, la pluie, la flamme, etc.
Et puis, il y a une question à chaque fois, c'est est-ce que les pouvoirs publics ont failli ou pas? Et donc, la responsabilité du politique, c'est de le vérifier, d'en tirer les enseignements et de faire autre chose. Et donc, c'est ce mélange et qu'on a vu, c'est la différence, quoi, qui est parfois réprimée, qui ressort à Nice sur, finalement, est-ce que c'est pas la faute des pouvoirs publics. Donc, la première, j'allais dire, raison de se rendre sur les lieux, c'est de se rendre compte et de savoir si des enseignements doivent être en tirés. Puis la deuxième chose, c'est de ne pas être lâche.
Pour le coup, là, il doit aussi dégonfler une rumeur qui veut qu'à Paris, on aurait anticipé ça, on aurait déversé des flots d'eau. Enfin, et est-ce que cette éthique de l'anti-victime dont vous venez de parler, c'est aussi celle, au fond, de Dominique Voynet, qui refuse de se rendre sur les côtes de l'Atlantique après la marée noire?
Peut-être, c'était le même gouvernement, disant que ce n'est pas une catastrophe. Là, je pense que c'est un peu différent, si vous voulez. Je suis presque sûr que Lionel Jospin, si on lui demandait est-ce que vous le referiez, je pense qu'il dirait oui. Dominique Voynet dirait non.
Caroline Aliachef.
Vous avez aussi, sous un autre gouvernement, M. Mattei, qui n'avait pas jugé bon de revenir à Paris au moment de la canicule. C'est-à-dire, il y a aussi une question d'appréciation. Bon, je crois qu'aujourd'hui, elle joue plus, parce que quand il se passe quelque chose, voilà, il faut être sur place. L'extrait que vous avez passé avec Lionel Jospin montre aussi que devant une catastrophe, quelle qu'elle soit, il faut trouver un responsable et du sens.
Voilà, donc... C'est intéressant, on voit qu'il y a presque des passages obligés pour l'acteur politique qui doit dire voilà ce qui s'est passé, voilà, voilà qui sont les responsables, voilà ce que peuvent faire les pouvoirs publics et comment est-ce qu'on va indemniser les victimes.
D'abord, si on refaisait la séquence et si on avait à conseiller Lionel Jospin, on lui conseillerait de dire « Madame, il s'est passé une chose certaine et une autre chose que je vais étudier. La chose certaine, c'est qu'il a plu beaucoup. Et la chose que je vais étudier, c'est de savoir si les travaux qui ont été faits par les différentes collectivités d'État soumettent à un risque supérieur à celui que vous avez connu quand vous étiez petite. Et je vous donne rendez-vous dans 2 mois quand j'aurai travaillé là-dessus. » Et c'est ça ce qui lui manque dans cette phrase-là, avec l'idée, je pense, idéologique, qu'il a trouvé un milieu politique qui mettait l'État tout le temps et que lui ne veut pas être trop étatiste. Ce qu'on entend là, c'est exactement « l'État ne peut pas tout ».
Martin Hirsch, Caroline Aliachef, on se retrouve dans un instant après notre séquence internationale et nous nous rendons aujourd'hui au Japon.
L'atelier du pouvoir. Vincent Martini, Ariane Chemin.
Alors que nous essayons de comprendre le rôle des victimes et de leur prise en charge dans la vie politique, nous avons décidé de nous rendre aujourd'hui au Japon. 5 ans après la catastrophe de Fukushima, cet accident atomique survenu suite à un tsunami le 11 mars 2011 reste encore dans toutes les mémoires. Sans équivalent depuis Tchernobyl, il a laissé son empreinte dans la société et la vie politique japonaise. En effet, ce n'est pas forcément bien connu, de nombreux reproches avaient été adressés à la classe politique en général, et en particulier au Premier ministre Naoto Kan pour son manque d'empathie envers les victimes et sa gestion contestée de la catastrophe, qui l'a mené à démission quelques mois plus tard, le 26 août 2011. Alors, pour parler de cet épisode dramatique de l'histoire du Japon et de ses conséquences sur le système politique, je reçois aujourd'hui Marie Augendre. Bonjour Marie Augendre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence en géographie à l'Université de Lyon 2, spécialiste du traitement des catastrophes au Japon. Alors ma première question, elle porte sur la manière dont la classe politique a réagi immédiatement après la catastrophe de Fukushima. Comment est-ce que ça s'est passé exactement ?
Cette classe politique, elle a été, je pense, comme beaucoup, pris de court et a manifesté une impréparation très forte vis-à-vis d'un accident nucléaire inédit et d'une ampleur comparable à Tchernobyl, et qu'elle a été très critiquée surtout parce que cette impréparation a conduit à de la désinformation et du silence, ce qui s'est traduit notamment par le fait que des populations se sont déplacées dans des endroits qui étaient plus irradiés que là d'où elles venaient, donc vraiment une colère et une défiance très forte qui s'est installée entre cette classe politique et la population. Ça s'est illustré aussi par la prise de parole un peu iconoclaste du gouverneur de Tokyo de l'époque, qui était Ishihara Shintaro, qui 3 jours après la catastrophe, alors que la centrale a déjà connu 2 explosions, dit publiquement que cette catastrophe majeure, c'est une punition du ciel qui sert à laver l'égoïsme des Japonais et nettoyer la crasse accumulée dans leur cœur. Donc, le contraire de l'empathie, ça y ressemble beaucoup.
Et comment avait réagi le Premier ministre Naoto Kan?
Alors Naoto Kan, il était allé aussi très vite sur place et était en contact avec l'opérateur de la centrale TEPCO mais lui-même n'était peu ou mal informé et était vraiment confronté vis-à-vis de l'opérateur à une situation pour laquelle il avait vraiment très peu d'éléments pour pouvoir agir.
Et pourtant, Fukushima n'est pas la première catastrophe à laquelle était confronté le Japon. On pense par exemple au séisme de Kobe en 1995. Finalement, quelle est la singularité de cet épisode, de cet accident atomique ?
Si on compare avec Kobe, effectivement, qui a été pour le coup un marqueur assez fort d'une meilleure prise en charge peut-être psychologique des catastrophes et des émotions individuelles ou collectives, c'est que Kobe, c'est en 95, c'est une catastrophe urbaine concentrée qui est relativement brève dans le temps. Il y a un séisme et puis après c'est la reconstruction. Fukushima, ça touche une zone avant tout rurale, et ce qu'on appelle Fukushima, en fait, c'est une catastrophe qui touche très largement trois départements, qui est chronique et indéfini, hein, la radioactivité, elle se diffuse en taches de léopard, et surtout c'est une catastrophe qui n'est pas finie, il n'y a pas encore d'après, hein, il reste 25 millions de tonnes de débris dont personne ne veut, la centrale n'est pas démantelée, elle fuit toujours, donc la classe politique, elle est confrontée en fait à une logique de reconquête territoriale, et ce qu'elle souhaiterait en fait, c'est qu'il ne se soit rien passé à Fukushima.
Mais ben justement, on a l'impression que c'était le cas du Premier ministre Naoto Kan, et en même temps, il y a eu une sorte de partage des rôles avec une autre figure de la vie politique japonaise, si on peut l'appeler ainsi, c'est l'empereur, qui a eu lui une fonction particulière lors de cet événement. Quelle était-elle ?
En effet, l'empereur a pris position de façon rarissime, non pas qu'il n'intervienne pas fréquemment dans des occasions protocolaires, institutionnelles ou internationales, mais là, dès le 16 mars, donc 5 jours après la catastrophe, il va prononcer un discours qui a beaucoup marqué les Japonais, surtout les victimes locales, en disant que je suis profondément attristé par la dévastation. Il évoque évidemment le séisme et le tsunami. Je prie pour la mise en sûreté du plus grand nombre de personnes. Et mon autre profonde préoccupation est l'état grave et imprévisible de la centrale. Donc il y a là, pour le coup, cette empathie, elle se manifeste véritablement. Et ce qui a peut-être le plus marqué ses victimes ou ses sinistrés, c'est qu'il se rend dans les zones dévastées, il va rencontrer des personnes réfugiées dans les centres d'hébergement de secours d'urgence, et tout empereur qu'il est, c'est aussi un vieux monsieur, hein, il avait plus de 75 ans à l'époque, je pense, et il va s'agenouiller, il s'est agenouillé pour discuter avec ses réfugiés. Et symboliquement et physiologiquement, physiquement, ce geste a été très fort et a sans doute été un grand réconfort pour les victimes comme pour les élus locaux.
Moi, c'est d'autant plus intéressant que je crois que c'était la deuxième fois dans l'histoire du Japon contemporain que l'empereur avait fait une allocution particulière à la télévision, et la première fois étant à la suite de la Seconde Guerre mondiale, c'est cela ?
Alors effectivement, en août, le 15 août 1945, il avait eu dans un discours radiophonique cette phrase qu'il fallait que le Japon se prépare à supporter l'insupportable.
Est-ce que vous considériez qu'il y a une sorte d'avant et d'après Fukushima dans la prise en charge des victimes par la classe politique ? Ou au contraire, est-ce que vous avez le sentiment que rien n'a changé ?
Comme je le disais en évoquant l'opposition entre l'accident de 2011 et le séisme de Kobe, on est dans une catastrophe où pour moi il n'y a pas d'après. Et la classe politique, elle doit faire face à d'autres enjeux et des enjeux qui sont à une autre échelle que celle des élus locaux. Hein. Les élus locaux, il y a le maire de Futaba, la municipalité où était située la centrale, qui, dans un documentaire et après quelques années, va réaliser le pacte faustien conclu par ses édiles et l'énergie nucléaire en disant « pendant que nous, on baignait dans la radiation, Tokyo prospérait ». Et Abe doit aussi faire face à des enjeux qui sont par exemple celui des Jeux Olympiques de 2020. Il a d'ailleurs déclaré au comité international pour les rassurer que la situation était sous contrôle et qu'il ne devait surtout pas s'inquiéter parce que Tokyo était la ville la plus sûre du monde, ou une des plus sûres du monde. Et puis, il y a aussi des enjeux qui relèvent peut-être de la résilience de la filière nucléaire, mais c'est une autre histoire.
Eh bien, merci beaucoup pour cette intervention, Marie Gendron.
Alors, Alors Marie-Orange Jean nous a raconté notamment la geste de l'empereur du Japon. C'était intéressant parce qu'à la fois il pointe les erreurs commises et puis il va s'agenouiller. Alors les politiques, ils se servent aussi, c'est difficile à dire, mais ils se servent aussi des catastrophes. J'ai lu dans le dernier livre qui est paru chez Albin Michel qui s'appelle « Conversation privée avec le président », François Hollande lâche cette confidence « Je n'ai jamais été aussi bon qu'au moment des attentats ». Qu'est-ce que ça vous inspire, Martin Hirsch ?
Je pense qu'il ne faut pas surinterpréter la phrase. Je ne pense pas qu'il dise « je n'ai jamais été aussi bon en compassion, etc. »
Il ne faut pas lui donner du cynisme.
Voilà, je ne pense pas que ça soit... Mais, la question que pose François Hollande, c'est de dire « est-ce que j'ai bien protégé ? Est-ce que j'ai bien réagi ?» etc. Il faut dire qu'il a pris un risque beaucoup plus grand que le risque pris d'habitude en allant s'agenouiller. Moi, ce qui m'avait frappé, c'est le moment où il invite les autres chefs d'État. Là, je parle des attentats du 7 janvier. Il invite, rappelez-vous, les dirigeants du monde européen, hein, alors que la fusillade de l'Hyper Cacher n'est pas encore réglée. Donc là, il a pris un risque. Il a fait vraiment de la politique. Il n'a pas fait de la compassion, il a fait de la politique. Donc ça, c'est très particulier. Puis pour en revenir à l'empereur, ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est que l'empereur, il a fait deux allocutions télévisées en 50 ans. Il n'est pas allé chercher tous les otages à chaque descente d'avion. Comme on le voit aujourd'hui, où c'est une sorte de genuflexion obligée pour le moindre otage, qui pose aussi quelques petites questions pour notre démocratie.
D'ailleurs, on voit bien qu'il y a eu un tournant sur ces questions aussi de mise en scène de la compassion, et ce tournant, Caroline Eliashev, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais il me semble que c'est l'interview du ministre de la Santé, à l'époque de la grande canicule, qu'on voit dans ses jardins, 10 ans, en vacances, que tout va bien. Et là, quand même, on lui reproche de ne pas avoir mis en scène cette compassion. Et d'ailleurs, ça mènera à sa démission.
Absolument. Il n'a pas senti qu'il fallait... Il n'a pas anticipé le fait qu'il fallait être sur place. Voilà. Cela dit, quand François Hollande s'est déplacé, il a pris un risque physique incroyable que jamais un président... On aurait laissé un président des États-Unis, on lui a reproché, à savoir que la zone n'était absolument pas sécurisée. Et effectivement, un des terroristes était encore dans... On l'a su après, évidemment.
Autour de l'immeuble de Charlie.
Non.
Au Bataclan. Mais aussi oui, autour de l'immeuble, voilà,
où on le savait. Exactement.
Je pense qu'il a dit que si c'était à refaire, il le referait. Et que,
oui, oui. Etc. Mais c'est à la fois courageux, incontestablement courageux, et en même temps, c'est le président de la République. Et c'est une question qui se pose, faut-il qu'il prenne ce risque?
Mais Caroline Eliashev, quand on entend par exemple Marie-O Gendre nous parler de l'après-Fukushima, ça pose aussi la question de l'après-victime d'une certaine manière. Quand il y a eu une catastrophe, qu'elle soit liée au terrorisme, que celle-là est une catastrophe naturelle, il y a deux questions. Une qu'on a déjà posée sur la question de la mémoire des victimes, hein, c'est la question des mémorials dont parlait Ariane Chemin tout à l'heure dans les journaux. Hein, il faut observer une mémoire, mais il y a aussi une question de qu'est-ce qui se passe après, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que ça nous dit une société qui dit bah, il faut indemniser les victimes? C'est pas le cas partout, si?
Non, c'est pas le cas partout, mais on n'est pas parmi ceux qui indemnisent le mieux les victimes.
Ça se trouve où? Est-ce qu'on indemnise mieux les victimes qu'en France?
Aux États-Unis, clairement. Le système est assez différent. Nous aimons trouver des responsables. Et nous indemnisons relativement peu. Les États-Unis, aux États-Unis en particulier, la question des responsables passe tout à fait au second plan et ils indemnisent beaucoup mieux. Voilà, c'est une. Mais cela dit, l'indemnisation elle-même a beaucoup progressé. La question est compliquée parce que pour indemniser, il faut avoir été reconnu victime. Je ne parle pas des victimes...
Juridiquement, vous voulez dire?
Oui. Il y a souvent un décalage entre quelqu'un qui s'estime victime et qui demande réparation et qui n'a pas encore été reconnu victime par la justice. Voilà, donc on est dans un système un petit peu compliqué.
Je trouve que la question qui se pose dans la réparation par l'indemnisation ou d'ailleurs par le respect ou par la médaille, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est est-ce que la réparation est destinée à vous ramener à l'état précédent? Donc, à cause de l'attentat, vous avez perdu une jambe, on va vous permettre de bénéficier du système de soins gratuitement, d'une prothèse, vous avez un handicap qui vous empêche de travailler, on va vous compenser cela, etc.
Ou est-ce que la réparation est celle qui va vous conduire à un statut permanent de victime? Moi, je pense que le premier est indispensable. Et d'ailleurs, dans ces situations-là, les contrastes les plus forts sont des victimes qui sont face à un événement qui fait énormément de bruit et eux qui ont leur tracasserie quotidienne parce que rien n'avance, etc. Et donc, il faut absolument leur permettre de revenir le plus vite possible à l'état précédent. Mais je pense qu'il devient dangereux que soit par le verbe, soit par l'argent, soit par l'attitude de la société, on en fasse du coup des victimes à statut
professionnel.
Je n'osais pas dire le mot.
C'est-à-dire que, à la fois, vous disiez trop de compassion tue la compassion, mais trop de victimisation aussi peuvent nuire aux victimes.
Mais oui, et c'est pour ça que j'étais attaché, si je puis dire, à ce que j'avais observé le 14 novembre. Nous n'avions pas des gens qui nous disaient qu'ils allaient se faire considérer comme des victimes toute leur vie. Mon obsession, c'est ça. De la même façon qu'on n'enferme pas les pauvres dans la pauvreté, on n'enferme pas les victimes dans la victimisation, etc. Et c'est ça le risque de la surenchère victimaire actuelle.
Est-ce qu'il y a un risque aussi de déresponsabilisation si on fait trop pour les victimes ou si on fait trop de compassion?
Bien, c'est le risque que la compassion pour solde de tout compte. Et c'est pour ça qu'il y a cette réclamation de pas simplement la compassion, mais la protection et la prévention.
Caroline Elichet, sur cette question de la déresponsabilisation, qui est un peu notre dernière question de l'émission, est-ce que vous avez en effet pas le sentiment, comme le disait Ariane Chemin, que finalement, considérer tout le monde comme des victimes, c'est aussi ne pas leur donner une responsabilité, pas forcément dans ce qui leur arrive, mais dans leur vie en général?
Je ne saurais pas répondre très directement à cette question, mais je pense qu'on ne peut pas parler de cette question des victimes en politique sans évoquer, puisqu'on n'aura plus beaucoup de temps, la question des victimes dans la justice. C'est là où se pose quand même un maximum de problèmes. Et on peut dire que l'attitude des hommes politiques est presque, de mon point de vue, un petit peu secondaire par rapport à la place qu'a pris les victimes, en particulier dans le procès pénal, qui n'est pas sans poser de sérieux problèmes.
Alors, pour prolonger cette conversation, que nous conseillons-vous de lire, Vincent Martini?
Oui, avant de conclure cette émission, peut-être vous parler de deux ouvrages très brièvement pour aller un peu plus loin. Bien sûr, d'abord le vôtre, Caroline Elichet.
Merci.
Celui que vous avez coécrit avec Daniel Soulez-Larivière, paru chez Albin Michel, je crois que c'était en 2007. Un ouvrage où vous avez un regard parfois un peu critique de l'évolution de ce temps vers le temps des victimes. Cette idée qu'il y a une apologie de l'individualisme démocratique qui n'est pas non plus sans conséquences négatives et qui en tout cas est un des traits tout à fait marquants de notre société. Le deuxième ouvrage dont j'aimerais vous parler très brièvement, c'est celui de Guillaume Herner, paru aux éditions La Découverte. C'était en 2007 également. Et au cœur de l'analyse de Guillaume Herner, on trouve la notion de consensus compassionnel dans le monde politique et médiatique. Ce qui caractérise la société des victimes, c'est donc ce consensus qui, loin d'être une mode, évoque une évolution profonde de nos sociétés par laquelle les victimes accèdent à un statut alors même que cette dénomination victime ne pouvait auparavant susciter qu'un sentiment de honte. Ce passage de honte à la reconnaissance, pour Guillaume Herner, voilà une des grandes évolutions de notre société. Mais cette société où on a finalement un ensemble de victimes a un certain nombre de rôles pervers aussi, dit-il, où l'émotion peut l'emporter sur le raisonnement, la charité sur la solidarité. Et puis enfin, avant de nous quitter, je voudrais vous parler de ce film « L'exercice de l'État » de Pierre Scholler, ne serait-ce que pour la scène d'ouverture lors de laquelle un ministre des Transports se rend sur le lieu d'un accident de bus scolaire. Et c'est une scène qui rend, je crois, admirablement compte de la réalité du métier politique face aux victimes. Et c'est tout pour aujourd'hui.
Merci pour ce bon conseil, Vincent. Merci, chers auditeurs. C'est la fin de l'Atelier du Pouvoir, une émission de Vincent Martini et Ariane Chemin, préparée par Antoine Dulster, réalisée par Vincent Abouchard. À la technique aujourd'hui, Bernard Daniel. Vous pouvez nous retrouver en podcast ou sur la page L'Atelier du Pouvoir sur franceculture.fr, ainsi que sur les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission ou sur Twitter, @AtelierPouvoir. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour un nouvel Atelier du Pouvoir. Dans un instant, c'est la suite dans les idées, l'émission de Sylvain Bourmeau, qui reçoit aujourd'hui une jeune et passionnante romancière, Aoutar Archi. Elle s'est penchée sur la trajectoire de 5 écrivains algériens de langue française, parmi eux, Kamel Daoud. Bon week-end à tous sur France Culture.